Chapitre 2. L'étranger à Rome. Le lendemain matin, le pèlerin traversait le forum lorsqu'il vit un groupe de personnes qui entouraient un homme et paraissaient le tourmenter. Il ne se serait pas arrêté longtemps à une scène de ce genre si un nom qui lui était bien connu n'avait frappé son oreille. Au milieu du groupe, l'étranger aperçut un homme plus jeune que lui. Mais si le pèlerin paraissait plus âgé qu'il ne l'était réellement, à cause de sa pâleur et de sa maigreur extrême, l'embonpoint et la rougeur de l'autre personnage le vieillissaient avant l'âge. Son front était chauve, ses joues bouffies. Son visage enflé et écarlate était couvert de taches de rousseur et de boutons. Son regard avait l'expression hébétée d'un homme à moitié ivre. Son ton et ses manières étaient celles d'un malheureux être qui s'adonne ordinairement à la boisson. Ses vêtements étaient sales et toute sa personne semblait négligée. « Ah, ah, Corvinus !» lui dit un jeune homme. « Vous allez être récompensé selon vos mérites. N'avez-vous pas entendu dire que Constantin doit venir cette année à Rome ? Les chrétiens vont peut-être vouloir prendre leur revanche. »« Non, » répondit l'homme que nous avons dépeint. « Ils ne sont pas assez forts pour cela. Lorsque Constantin publia son premier édit, après la mort de Maxentius, nous craignîmes la vengeance des chrétiens. » Mais Constantin nous rassura en déclarant l'année suivante que toutes les religions étaient également tolérées. « C'est très bien en règle générale, » reprit un autre, résolu à tourmenter le malheureux. « Mais il est probable qu'on fera rechercher ceux qui ont pris une part active à la dernière persécution et que la loi du talion les atteindra. Ils auront coup pour coup, brûlure pour brûlure et bête féroce pour bête féroce. » « Qui dit cela ?» demanda Corvinus, mortellement pâle. « Mais ce serait tout naturel, » dit l'un des assistants. « Et très juste, » ajouta un autre. « Oh, ce n'est rien, » dit Corvinus, « ils relâcheront toujours ceux qui se feront chrétiens. Quant à moi, je deviendrai ce qu'on voudra plutôt que d'aller... » « Voilà Pancratius !» interrompit un troisième, plus méchant que tous les autres. « Taisez-vous !» hurla l'ivrogne d'une voix furieuse. « Répétez encore son nom si vous l'osez !» Et, levant son poing, il regardait avec rage l'individu qui lui parlait. « Oui, parce qu'il vous a prédit comment vous deviez mourir !» cria le plus jeune de la bande en s'enfuyant. « Ohé ! Ohé ! Une panthère pour Corvinus !» Tous s'enfuirent devant l'être humain devenu furieux comme devant les bêtes féroces du désert. Il les maudit et leur lança les pierres. Le pèlerin qui avait assisté à la fin de la scène, à quelque distance, reprit alors son chemin. Corvinus suivait lentement la même route qui conduit vers la basilique de Latran, devenue à présent la cathédrale de Rome. Au moment où il passait par le Colisée, près de l'antre des bêtes féroces, amenées pour combattre les unes contre les autres en l'honneur de la visite de l'empereur, Corvinus, surexcité par la curiosité inquiète, naturelle aux personnes qui se croient sous l'empire d'une évitable fatalité attachée à un objet particulier, s'approcha de la cage d'une magnifique panthère. Il alla près des barreaux et provoqua l'animal par ses gestes et par ses paroles, en disant « Oui, vraiment, il est probable que tu causeras ma mort, mais en attendant, tu es enfermé dans ta cage. » En ce moment, l'animal furieux bondit vers lui, et à travers les larges barreaux, saisit de ses griffes le cou et la gorge de Corvinus en lui faisant d'affreuses blessures. On releva le malheureux homme et on le transporta à son logis qui n'était pas éloigné. L'étranger le suivit et trouva cette demeure sale, dénuée de tout et incommode. Un seul esclave, vieux et décrépit, et paraissant aussi stupide que son maître, servait Corvinus. L'étranger l'envoya chercher un médecin qui fut lent à venir. Pendant ce temps, il étancha de son mieux le sang qui coulait en abondance. Tandis qu'il était ainsi occupé, Corvinus fixa sur lui son regard allumé par le délire ou la folie. « Me reconnaissez-vous ? » demanda doucement le pèlerin. « Vous reconnaître ? Non. Oui. Voyons. Ah ah ! Le renard, mon renard ! Vous rappelez-vous notre chasse ensemble contre les chrétiens détestés? Où avez-vous été pendant tout ce temps? En avez-vous pris un grand nombre dans vos filets? » Et il riait d'un rire hideux. « Paix, Corvinus, » répondit l'autre, « restez en repos où il n'y a plus d'espoir pour vous sauver. En outre, je désire que vous ne fassiez plus allusion à ces temps, car moi-même, je suis chrétien maintenant. » Vous, chrétien, hurla Corvinus d'une voix sauvage. Vous qui avez répandu leur sang le plus pur en plus grande quantité qu'aucun autre homme, on vous a pardonné tout cela? Ou bien avez-vous pu avoir vos nuits tranquilles avec un pareil fardeau d'iniquité? Est-ce que les furies ne viennent pas torturer votre sommeil? Les fantômes des victimes vous épargnent-ils? Des vipères ne viennent-elles pas vous sucer le cœur? Si vous êtes paisible, dites-moi votre moyen afin que je l'emploie, sinon ils vont venir, ils viennent. Vengeance et furie, pourquoi ne vous tourmentent-elles pas comme moi? Silence, Corvinus, j'ai souffert comme vous, mais j'ai trouvé le remède et je vous le ferai connaître aussitôt après la visite du médecin qui arrive en ce moment. Le médecin vit le malade, pansa la blessure, mais donna peu d'espoir de guérison, surtout pour un homme dont le sang était enflammé et vicié par l'intempérance. Alors l'étranger alla s'asseoir auprès de la couche du malade et lui parla de la miséricorde de Dieu, toujours prête à pardonner aux pécheurs les plus indignes, et se cita comme une preuve vivante de cette infinie miséricorde. Le malheureux homme semblait en proie à une sorte de stupeur. S'il entendait, il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Enfin, son gardien dévoué lui exposa les mystères fondamentaux du christianisme, dans l'espoir plutôt que dans la certitude d'être compris, puis il ajouta « Et à présent, Corvinus, vous allez me demander comment le pardon est accordé à ceux qui croient à tout ceci ? C'est au moyen du baptême, cette seconde naissance par l'eau et par le Saint-Esprit. » « Comment ? » demanda le malade à contre-cœur. « Il faut être lavé dans l'eau régénératrice. » Un hurlement convulsif, plutôt qu'un gémissement, l'interrompit. « De l'eau ! De l'eau ! Pas d'eau pour moi ! Enlevez cela !» Et un violent spasme étreignit le malade à la gorge. Son gardien fut alarmé, mais songea à le calmer. « Ne pensez pas, dit-il, qu'on vous prendra, grelottant de fièvre comme vous l'êtes, pour vous plonger dans l'eau. » Le malade frissonna et gémit. « Pour le baptême clinique, quelques gouttes d'eau suffisent. Il n'en faudra pas plus que ce petit vase n'en contient. » Et il lui montra ce que contenait le vase. À cette vue, le malade se tordit sur sa couche et sa bouche écuma, une convulsion effrayante agita tous ses membres et les hurlements qui s'échappaient de son gosier semblaient émaner plutôt d'une bête féroce que des lèvres d'un être humain. Le pèlerin devina que l'hydrophobie, avec ses horribles symptômes, s'était communiquée au malade par la morsure de l'animal enragé. C'est avec bien des difficultés que l'étranger put, aidé de l'esclave, retenir le malheureux sur sa couche au moment des crises. Quelquefois, au milieu de ses accès, il blasphémait d'une manière affreuse contre Dieu et contre les hommes. Puis, quand il se calmait, il disait en gémissant « De l'eau ! Ils veulent me donner de l'eau ! De l'eau pour moi ? Non, c'est du feu que j'ai ! C'est le feu qui sera mon partage ! Déjà, le feu est au-dedans de moi, il m'entoure ! Voyez-vous les flammes qui s'avancent vers moi à chaque instant ?» Et il cherchait à écarter de la main ces flammes imaginaires qui entouraient son lit, et il soufflait sur celles qu'il croyait voir au-dessus de sa tête. Puis, se tournant vers ses gardiens, attristé de cette douloureuse scène, il leur dit « Pourquoi n'éteignez-vous pas ces flammes? Vous voyez qu'elles me brûlent déjà !» Ainsi se passa cette lugubre journée. Puis vint la nuit affreuse. La fièvre augmenta et le délire la suivit. Les accès de rage se rapprochèrent, quoique le corps allât en s'affaiblissant. Enfin, Corvinus se dressa sur son lit et, jetant devant lui des regards effrayants, il cria d'une voix étranglée et frémissante de rage « Arrière, Pancratius, arrière! Ton regard m'épouvante depuis assez longtemps. Retiens ta panthère, tiens-la ferme, elle va me sauter à la gorge, elle vient, oh !» Et avec une étreinte convulsive, comme pour repousser la bête qu'il voyait bondir sur lui, il arracha le bandage qui retenait sa blessure. Des flots de sang l'inondèrent et son cadavre hideux retomba inerte sur le lit. Son ancien ami put voir comment mouraient les persécuteurs impénitents.